C'est vrai que c'était beau. C'était beau en ce sens que on voit comment tous les ancêtres du Christ remontent à si loin. Ils remontent à Adam, le premier ancêtre. Et après, on voit de génération en génération, on voit raconté symboliquement, évidemment, on voit comment Dieu a préparé son peuple à travers ces personnages-là, dont tous n'ont pas été forcément reluisants, tous n'ont pas été des saints, tous n'ont pas eu une vie parfaite, mais tous, ils ont servi à l'avènement, à l'introduction de Dieu, du Dieu vivant dans le monde par l'incarnation de son Fils, comme on va le fêter dans une semaine pour Noël. Et réaliser que les premiers dont on parle dans la généalogie, il est impossible évidemment de les dater exactement. La datation au carbone 14 ne marche pas, il faudrait trouver leurs ossements. Or, on ne les connaît pas, on ne les a pas retrouvés pour l'instant. Mais ces personnages-là remontent à la nuit des temps. Quand vous avez tous fait de la paléontologie, et vous savez ce que c'est que l'âge de pierre, eh bien, parmi ces ancêtres du Seigneur, il y en a qui datent de l'époque de l'âge de la pierre, et même d'avant. Ce qui montre que, dès l'origine, Dieu a préparé, je ne peux pas dire miraculeusement, mais providentiellement, il a préparé des personnes, des hommes, à amener petit à petit la possibilité que Dieu s'incarne, que Dieu lui-même devienne ce que nous sommes. Après avoir créé Adam, puis Ève, dont les noms sont symboliques aussi, nous savons qu'hélas, hélas pour nous, ils ont péché. Hélas pour eux aussi d'ailleurs. Ils ont péché, c'est-à-dire qu'ils se sont rebellés contre Dieu à l'instigation du diable. Et mon but n'est pas de vous présenter le péché aujourd'hui, mais une de ses conséquences. Une de ses conséquences, c'est que alors qu'il avait créé l'homme, homme et femme, masculin et féminin, pour être complètement unis, pour représenter, pour manifester dans la réalité du monde, manifester la relation qu'il y a entre Dieu lui-même et les hommes nous-mêmes. Et juste après le péché, en conséquence du péché, il y a eu cette division dans laquelle on souffre encore aujourd'hui. La femme s'est rebellée, l'homme et la femme se sont rebellés contre Dieu. La femme s'est rebellée contre l'homme et l'homme contre la femme. Et les divisions ont été croissantes. C'est raconté symboliquement aussi, des années après, par la tour de Babel, que vous connaissez, l'homme voulant atteindre Dieu par ses propres forces, fait que les hommes ont été divisés, même dans leur langue, c'est-à-dire même dans leur manière de communiquer. Ce qui les unissait est devenu une division, et on en souffre encore. Mais nous voyons, à travers cette généalogie que nous avons lue aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur, avec patience, au cours de milliers d'années, reconstitue la nature humaine telle qu'elle était. Il veut la réunifier. Il veut que le salut ne soit pas, le salut des hommes ne soit pas un salut individuel où chacun ferait ses arrangements avec le Père éternel pour avoir une place pas trop mauvaise dans le royaume des cieux. Je le dis symboliquement, évidemment aussi. Mais il veut que ce soit tout le peuple qui soit sauvé. Toute l'humanité. C'est un mystère pour nous de savoir qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Mais ce que nous voyons, c'est que le Seigneur reconstitue un peuple. Et c'est ça que nous indique la généalogie, avec des gens, des hommes ou des femmes, qui ont été des modèles, d'autres qui n'ont pas été des modèles ou qui ont été gravement pécheurs, mais qui tous ont contribué à la constitution de ce corps unique qui a été scellé par la venue du Christ qui a pris lui-même notre nature humaine de manière à nous unifier. Et pas simplement unifier ceux de son temps et ceux qui allaient venir, mais unifier aussi a posteriori ceux qui étaient auparavant. Et dans notre expérience intime de l'ordre de la foi, nous savons que lorsque nous communions à l'Eucharistie, nous sommes en communion aussi avec ces premiers hommes, comme avec les derniers d'ailleurs. Et le but de notre vie chrétienne, c'est à notre échelle, à chacun d'entre nous, de reconstituer autant que faire se peut cette union entre les personnes. Ce qui, évidemment, fait que nos divisions pécheresses qui s'opposent à cette union nécessitent un effort de notre part pour tendre avec le Christ, avec la force du Saint-Esprit, à renouer avec cette unité de l'humanité, de retrouver autour de nous cette communion les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans l'Évangile, nous demande de pardonner inlassablement, parce que le péché, peut-être que le péché le plus grave, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, je pense que oui, mais le péché le plus grave, c'est de mettre une division entre nous dans le corps de l'humanité. Donc, tout égoïsme, toute haine, tout ressentiment, toute jalousie, toute division est un échec à cette volonté d'unité des hommes. L'homme a été créé, n'est-ce pas, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment ? Notamment, pas exclusivement, mais notamment, puisque Dieu est trois personnes en un seul Dieu, nous sommes une seule humanité en une multitude de personnes. Et notre union, notre unité est beaucoup plus profonde que ce que l'on voit dans la vie de tous les jours suivant le mode déchu de notre existence. C'est ainsi que les fautes ou l'expérience de l'un devient aussi l'expérience de l'autre, de fait, à un niveau autre que le niveau historico-humain, physique, etc., psychologique. Mais il y a une interdépendance les uns des autres. Lorsque je commets un péché, lorsque je suis jaloux ou que je me sépare avec les autres, le pauvre Paul en subit les conséquences, et vous tous aussi. Et inversement, la sainteté comment il t'appelle, de Larsen, rejaillit. Pourquoi ça vous fait rire? Ils ont l'air d'en douter. Voilà la division qui commence. Sa sainteté rejaillit aussi sur moi et me sanctifie et amène mon salut à moi aussi. Et si on ne peut pas juger l'insondable profondeur de la sainteté d'Arsène, on connaît celle du Christ en tout cas. Et c'est lui, essentiellement, qui, dans la vie, rejaillit en Arsène et en nous tous. Et le crime que nous pouvons commettre, c'est d'insérer dans cette harmonie, d'insérer le coin de la division, de la séparation. C'est la raison pour laquelle, dans l'Évangile, le Seigneur nous demande de pardonner 77 fois 7 fois, c'est-à-dire une infinité de fois. Et là encore, c'est rétablir la ressemblance que nous avons avec Dieu comme il nous a créés. Quand le Seigneur nous dit qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois, une infinité de fois, c'est lui qui l'écrit. C'est lui qui montre que lui pardonne, que le Père pardonne une infinité de fois. Et quand on pardonne nous-mêmes, on participe à cette nature d'amour qui est Dieu. Pardonner, c'est faire abnégation de soi. Pardonner, c'est se crucifier, parce que c'est pas facile. C'est préférer l'autre à soi-même. C'est accepter les limites, les erreurs, voire les méchancetés, voire les crimes des autres. Parce que finalement, nous ne sommes pas tellement meilleurs, mais d'une autre manière. On a suffisamment d'imagination pour inventer chacun d'entre nous une manière particulière de nuire aux autres. Un jour, nous racontons souvent cette histoire-là parce qu'elle nous touche de près, puisque Père Élisée, notre igoumène, on a été le témoin. Alors qu'il marchait dans les rues d'Athènes ou de Thessalonique, une dame est venue le solliciter en lui demandant s'il avait 2 minutes de disponible. Il a accepté. Et il faut vous dire que là où il logeait en ville, il logeait chez des amis qui lui avaient raconté qu'une voisine, battue à mort par son mari, qui voulait la faire déguerpir le soir pour trouver une autre femme, et avec des changements de paysage réguliers, allait se réfugier quand c'était trop fort, allait se réfugier chez les amis chez lesquels était Père Guéranda. Et ces amis-là lui racontent un petit peu la situation en lui demandant de prier pour être pris. Dans cette entrefaite, il est donc dans les rues et une dame vient le solliciter. Elle lui raconte son histoire. Elle dit, voilà, j'ai un mari qui ne cesse de me battre. Vous voyez bien, j'ai des bleus, j'ai des... Enfin, bon, ça, c'est moi qui l'ajoute, c'est ma manière de vous le raconter, mais c'est pas forcément comme ça. Ah, ma pauvre femme, ma pauvre dame, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, ça, Et elle dit, mais attendez, mon histoire n'est pas finie. Je vais me réfugier chez des amis qui habitent dans le quartier là. Il a fait la relation entre les deux récits. Et ils me conseillent, ils me reçoivent, ils me consolent, tout ça. Mais finalement, ils me conseillent, ceux-là et les autres, ils me conseillent de divorcer. Et ils me disent que c'est pas uniquement pour ma tranquillité, mais c'est aussi par charité. Parce qu'un jour, mon mari, arrivera à me tuer et je ne voudrais pas qu'il ait un meurtre sur la conscience. Et le... J'ai hésité pendant longtemps, et aujourd'hui, je suis allé au tribunal, chez le notaire, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai qu'à vous renseigner. En tout cas, je sais que je ne suis pas chez l'antiquaire, encore que. Pour faire les démarches, pour... Et il m'a donné les papiers, il m'a dit le processus à suivre. Et pour me donner l'effort, je suis rentré dans l'église qui est dans le quartier là. Et je suis allé voir la mère de Dieu en lui disant donne-moi la force de faire ce... Et à ce moment-là, j'ai entendu la mère de Dieu qui m'a dit « Quoi ? Tu veux pas porter avec moi la croix de mon fils ?» Ça m'a tellement choqué que maintenant, j'ai décidé de ne pas remplir les papiers, tenez, je vous les donne. Parce que maintenant, j'ai appris à aimer l'âme de mon mari. Vous voyez, l'expérience spirituelle, j'ai appelé à aimer non plus son corps ou sa psychologie, elle n'a qu'à en souffrir, elle porte sa croix, mais appris à aimer l'âme du mari. Voilà un exemple de pardon sublime, de pardon héroïque. Tout le monde ne peut pas en faire autant, tout le monde n'est pas appelé à en faire autant. Mais voilà un exemple concret. Un autre échec, donc ça, le non-pardon, et cet échec de notre amour, les uns pour les autres, de notre union les uns après les autres. Il y a un autre échec qui s'appelle la jalousie, qui en fait partie. Et pour cela, j'évoque ça, parce que c'est une question qui a été posée sur ma table. Comment s'exprime la jalousie ? Comment peut-on dire qu'elle naît dans notre cœur sans manifestation extérieure ? Et à quel moment devient-elle un péché ? Commençons par la dernière partie de cette question. À quel moment elle devient un péché ? Dès le début. Il n'y a pas un seuil où c'était tolérable et puis tout d'un coup ça devient un péché. La jalousie est toujours, toujours, toujours un péché. Peut-être que c'est qu'en germe, mais c'est déjà un péché. Le germe de la division, c'est la division. Il y a toujours un repentir possible. Il y a toujours un regret. Il y a toujours une possibilité de revenir sur son sentiment. Mais en soi, la jalousie est toujours un péché. Qu'est-ce que c'est que la jalousie ? La jalousie, correspond à l'envie. Quand je suis jaloux, c'est que je suis envieux. Je suis envieux des autres ou de quelqu'un d'autre. Là, je suis jaloux en ce moment parce que j'aimerais bien avoir l'âge de Paul. Et je ne peux pas. Et comme je n'arrive pas à retrouver la jeunesse qui est la sienne, eh bien, je vais... presque inévitablement, sauf s'il y a un effort de conversion, je vais commencer à être jaloux, à lui en vouloir, à vouloir le rabaisser, à m'opposer à lui, puisque je ne peux pas devenir ce qu'il est, ou parce que je ne veux pas devenir ce qu'il est, je vais lui nuire, de manière à pouvoir acquérir moi un certain pouvoir sur lui. Rassure-toi, c'est complètement faux, ce n'est qu'un exemple. et entre l'envie et l'envie suscite ou naît d'une volonté de pouvoir. C'est-à-dire, je m'enferme sur moi-même, sur ce que j'estime légitime, sur ce que je voudrais. Je me présente comme le centre du monde. Et si je suis le centre du monde, si je me ressens comme le centre du monde, sur un point ou sur un autre, pas forcément dans tous les domaines, mais un seul domaine suffit pour être jaloux, comment accomplir, comment réaliser cette communion entre toutes les personnes ? Je peux toujours pardonner par ailleurs, mais si je suis jaloux, il n'y a aucune possibilité de restaurer cette harmonie qui est pourtant la volonté de Dieu et qui est notre image de Dieu. Et vous avez un exemple symbolique aussi de cette jalousie. Vous vous rappelez l'histoire de Caïn. Caïn ne supporte pas que Dieu agrée les sacrifices faits par son frère, Abel. Et il rumine tellement ça, il est tellement jaloux, qu'il en vient à tuer son frère. Et là, nous avons l'exemple même de ce que c'est que la jalousie, l'envie. Et tous, en quelque sorte, lorsque nous sommes jaloux, tous, nous trouvons un pouvoir sur nos frères et nous devenons meurtriers. Pas forcément d'un meurtre sanglant, mais de fait, on devient meurtrier de son frère ou de sa sœur, enfin de l'autre. La jalousie, elle ne peut pas ne pas s'exprimer. L'être jaloux, vous le sentez. Vous voyez bien par des petits signes, par des phrases, par des mots acérés, par une espèce de vengeance, par des attitudes qui font que on écrase, c'est-à-dire on sacrifie, c'est-à-dire on tue, comme Caïn, le frère dont on est jaloux. Et il n'y a pas besoin que cette jalousie s'exprime d'une manière extraordinaire pour créer des visibles aux yeux de tous, pour qu'elle crée des dégâts irrémédiables, c'est-à-dire une séparation véritable des personnes. Encore une fois, pourquoi ? Parce que j'estime que mon droit, enfin celui que je m'attribue, que ma valeur, que mon activité, je ne sais quoi encore, mérite ou mériterait d'être reconnu, d'être honoré. C'est-à-dire que je me présente véritablement comme le centre du monde. Je suis Dieu. Allez, mettez-vous à genoux. Vous avez des devoirs à mon égard. Et moi, évidemment, je n'en ai pas. Cette jalousie, ce non-pardon, est l'activité complètement opposée à ce que nous allons célébrer dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le 25 décembre, c'est donc Noël. C'est la venue de Dieu lui-même qui vient pour créer cette unité en lui, pour que nous redevenions un, comme nous l'étions à l'origine. Et justement, comment il restaure notre unité, et c'est en abandonnant volontairement et librement tout ce qui pourrait faire sa supériorité, tout ce qui pourrait être une volonté propre, tout ce qui pourrait être un pouvoir ou tout ce qui pourrait être de l'envie. C'est ainsi qu'il se fait petit enfant comme tous les enfants. Et le Christ est Dieu depuis sa conception, si bien que quand on contemple le Christ Jésus dans la crèche, petit enfant, on contemple déjà le Père, comme il a dit à Philippe. Maintenant que tu n'as donc pas vu le Père. Le Père, n'est pas un sentiment, c'est une personne, mais une personne qui est si humble, si petite malgré sa transcendance absolue, que c'est celui qui s'abaisse jusqu'à nous. C'est celui qui justement nous pardonne tout. C'est celui qui se met le dernier de tous, et il est dernier de tous, puisqu'il a même accepter volontairement de mourir par la main de ses frères et des prêtres qu'il avait préparés pourtant de toute éternité, et encore par la main d'étrangers qui dominaient le pays, les Romains en l'occurrence. Donc, vous voyez, cette attitude-là de renoncement total, de kénose totale, où il abandonne sa gloire en tant que Dieu pour devenir en tout un homme et l'homme avec le pire traitement qu'on puisse lui infliger, c'est comme ça que, parce qu'il est Dieu, il restaure en nous cette nature et cette communion. En vivant cette fête de Noël, ayons la volonté de s'orienter dans une reconstitution de notre humanité. Apprenons à parler. Apprenons à pardonner. Apprenons à souffrir pour l'autre. Apprenons à accepter d'être, à défaut d'être les derniers, d'être les avant-derniers ou d'être les seconds simplement. Acceptons d'être martyrisés, de ne pas être honorés comme nous aimerions être honorés. Acceptons d'être bafoués. Vous avez entendu l'épître de tout à l'heure où Saint Paul nous parlait justement de ses ancêtres, des prophètes qui ont été lapidés, qui ont été contestés, qui ont été sciés, qui sont morts martyrs. Nos vies, par certains côtés, revêtent un caractère de martyr. Quand Arsène veut prendre le morceau de gâteau qui est devant moi et que je reluquais, je suis martyr si j'accepte qu'il prenne le gâteau plutôt que de râler parce qu'il me l'a, il a pris le pain de ma bouche. C'est pas propre. Indépendamment de tous les exemples complètement idiots que je vous présente, voyez, si nous voulons vivre Noël, c'était d'ailleurs le sens des dons qu'on se faisait à Noël jadis, qu'on se fait encore d'ailleurs, mais enfin les cadeaux c'était une marque d'amour, une marque de charité. Ça a pris un autre sens maintenant, mais fondamentalement c'est ça, on essaie de faire plaisir à l'autre. Mais faire plaisir à l'autre, c'est pas simplement le jour de Noël, c'est en permanence. Et à qui faire plaisir? Faire plaisir essentiellement non pas à celui qui nous aime ou à ceux qui nous aiment, mais faire plaisir, vouloir le bien, c'est-à-dire à ceux qui ne veulent pas notre bien, à pardonner même à nos ennemis. C'est ça le mystère de Noël. C'est pas un mystère psychologique ou affectif, mais le but de la réunion de Dieu et de l'homme dans le sein de la Vierge Marie par l'incarnation s'exprime à travers notre charité, à travers notre pardon, à travers notre lutte contre l'envie, à travers notre patience, à travers l'amour de la persécution. On ne s'expose pas à la persécution, on ne cherche pas à être persécuté, mais forcément, dans nos vies, il y a toujours des persécutions de toutes formes. Pas forcément des persécutions de la part des autres, hein, mais la maladie est une forme de persécution, en quelque sorte. Ce sont des éléments externes à nous-mêmes qui viennent nous attaquer et nous affaiblir, viennent solliciter notre amour. D'où l'attitude qui peut être la nôtre, qui devrait être la nôtre dans la souffrance et même dans la mort. D'accepter d'accepter la maladie, pas la rechercher bien sûr, mais de l'accepter comme aussi un don de Dieu, même si ce n'est pas Dieu qui directement nous rend malade, ce serait un grand méchant, mais qui accepte que nous passions par des phases de maladie pour que nous nous dépassions, pour que nous apprenions la patience, c'est-à-dire que nous apprenions l'autre. Et cet amour, on n'est pas masochiste, hein, je ne veux pas exalter le masochisme, mais cette reconnaissance de la souffrance et de la maladie ne peut se réaliser que dans la mesure où on est justement uni avec le Christ par amour pour le Christ, par amour pour lui, on supporte ça, parce que lui, par amour pour nous, l'a déjà supporté préalablement. Et vous savez comme moi que sur les icônes de la Nativité, vous voyez alors que c'est la naissance du Christ, sur les icônes, vous voyez que le Christ est dans une crèche, et la crèche a la forme d'un tombeau. Il est enveloppé de bandelettes comme un mort, comme une momie. C'est-à-dire qu'au moment même de la nativité est déjà inscrite la destinée du Christ qui doit mourir, qui doit souffrir et mourir pour nous. Mais nous avec lui. Mais ces linges sont des linges blancs qui sont les linges de la résurrection, la couleur de la résurrection, la lumière de la résurrection. Donc, en luttant pour tout ce que maladroitement j'essaie de vous exprimer ce matin, en luttant pour cela, nous participons en Christ à la résurrection. Et pour nous, la résurrection n'est pas un événement à venir plus tard, dans 6 mois, dans 15 ans ou dans 70 ans. Je ne parle pas pour moi, hein. Mais c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, notre vie est une vie de mort-résurrection. Aujourd'hui, nous mourons au monde pour ressusciter en Christ. Aujourd'hui, nous abandonnons notre volonté, nous abandonnons notre égoïsme pour vivre pour l'autre et de l'autre, parce que l'autre est aussi le Christ et que nous avons la volonté de l'aimer et de lui offrir notre vie en sacrifice. À lui, avec son Père éternel et son Esprit très saint, bon et vivificateur, gloire, honneur et adoration dans les siècles des siècles. Amen. Amen.